Grand reportage.
Nous avons connu des crues très importantes, mais jamais une baisse aussi prononcée. Nous ne sommes pas préparés, ça n'a jamais été pensé.
Il prend sa source sur les hauts plateaux brésiliens, longe la frontière paraguayenne et traverse l'Argentine pour aller se jeter dans l'Atlantique. Long de près de 5000 km, le Rio Paraná, deuxième plus grand fleuve d'Amérique du Sud, connaît l'une des baisses les plus importantes de son histoire. Depuis 2 ans, son faible débit et son lit désespérément bas affectent la navigation commerciale, l'accès à l'eau potable et fragilisent l'écosystème du bassin fluvial. Confronté à une situation quasiment inédite qui pourrait se prolonger jusqu'à la fin de l'année, le gouvernement argentin a décrété l'état d'urgence hydrique. En Argentine, la baisse historique du Rio Paraná, c'est un grand reportage de Théo Conscience.
Alors voilà, on vient d'arriver à Rosario, 300 km environ au nord-ouest de Buenos Aires, 4 heures de bus. Rosario, c'est 1 200 000 habitants, un peu plus, c'est la troisième ville d'Argentine. C'est la ville natale de Che Guevara, de Lionel Messi aussi. Mais Rosario, c'est surtout une ville portuaire qui est construite sur les rives du fleuve Paraná, le Rio Paraná, qu'on surnomme parfois le Gigante Marrón, le géant marron. Mais c'est un surnom qui en ce moment lui va très mal, puisque le fleuve connaît l'un des étiages, l'une des baisses de son niveau les plus importantes de son histoire. Nous sommes maintenant sur le Rio Paraná, à bord d'une petite barque avec Jorgelina Iba.
Je suis journaliste, je travaille sur des sujets d'environnement. Et j'ai fait avec une équipe un documentaire sur la baisse du fleuve Paraná. Et nous sommes en ce moment dans un club nautique. Et nous sommes en train de voir quelque chose qu'on n'a jamais vu de notre vie.
Ça fait 30 ans que je travaille ici dans le chat club. Et la première fois que je vois une bajante tan grande et tant de temps.
Oui, alors on est aussi avec Nelson qui conduit notre barque et qui nous dit que ça fait 30 ans qu'il travaille dans ce club nautique et qu'effectivement, lui n'a jamais vu une baisse aussi prolongée dans le temps et surtout aussi prononcée. Et là, justement, on est en face d'un limnimètre. C'est une grande échelle graduée qui normalement plonge dans le fleuve et permet de mesurer son niveau. Mais aujourd'hui, elle ne plonge plus dans le fleuve.
C'est vraiment insolite ce qu'on voit. L'échelle est complètement dans l'air. On voit encore les traces de l'eau qui marquent un niveau moyen du fleuve dans les années normales. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il manque carrément au moins 1 mètre, 2 mètres d'eau, même par rapport à son niveau le plus bas.
Alors aujourd'hui, la mesure officielle du fleuve dit qu'on est à 16 cm en dessous du niveau de la mer. Ça représente quoi par rapport à la moyenne à cette époque de l'année normalement?
D'habitude, le fleuve devrait marquer 3 mètres environ, évidemment par-dessus du niveau du zéro. Mais encore une fois, là, c'est historique, pas seulement à cause du niveau d'eau, mais aussi de son prolongement dans le temps. Hein, parce que ça fait 2 ans déjà qu'on est avec des moyennes très, très par-dessous des niveaux moyens.
L'Institut national de l'eau, qui s'occupe de mesurer le niveau du fleuve, a fait des prévisions. Et c'est pas très réjouissant.
Non, tout au contraire. Le INA, l'Institut, actualise toutes les semaines des pronostics et tous négatifs, et encore à la baisse, au moins pour les 3-4 prochains mois. C'est vraiment pessimiste et il faut ajouter à cela qu'il y a un pronostic grandissant d'avoir une nouvelle année Niña. La Niña, c'est le phénomène de sécheresse, de manque de pluie. Et permettre de penser que le scénario va être encore pire que la baisse historique de 1944, quand le fleuve à Rosario a marqué moins 1,40 m environ. Depuis au moins qu'il y a registre, un siècle et demi, on n'aura jamais vu ça.
Qui dit niveau d'eau très bas dit aussi débit très bas. C'est quoi les niveaux actuels par rapport à la moyenne historique?
Alors, on est dans la moitié, plus ou moins. Et toutes les barrages qui sont dans les frontières entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay, ils mesurent tout le temps parce qu'évidemment, leur possibilité de générer de l'énergie dépend du débit du fleuve, du caudal. D'habitude, le Paraná transporte 15 000 mètres cubes par seconde. Et on est à la moitié, 7 000, 6 000. Donc ça génère aussi un problème, par exemple, pour la génération d'énergie, sans doute.
C'est un des problèmes que cause cette baisse du Paraná. Et alors, il y a d'autres problèmes. Quels sont-ils?
Alors, on a des problèmes très grands pour la navigation. On a évidemment des impacts sur la biodiversité. Et on a aussi un problème très grave par rapport à l'approvisionnement d'eau potable.
Et bien justement, on va aller visiter une de ces entreprises qui s'occupe de la potabilisation de l'eau, qui s'appelle Aguas Santa Fecinas.
Je suis Guillermo Lanfranco, directeur de la communication de Aguas Santa Fecinas, l'entreprise qui approvisionne en eau potable 2 millions d'habitants de la province.
Cheveux grisonnants, une barbe de 3 jours qui se devine sous son masque, Guillermo Lanfranco nous fait visiter les installations. Avant d'être filtrée et traitée au chlore, l'eau passe par de grandes piscines de décantation. Elles sont alimentées par de larges tuyaux que l'on peut voir grâce ou à cause de la baisse du fleuve.
Pour nous, la conséquence de la situation actuelle est principalement la perte de capacité de pompage de nos équipements. On doit compenser cette perte et le risque accru d'avarie car les équipements travaillent à une cadence plus élevée avec l'ajout de nouvelles pompes. Pour l'instant, on a ajouté une ici sur le côté et nous allons rajouter 2 autres pour compenser.
Fin juillet, le gouvernement argentin a décrété l'état d'urgence hydrique dans les 7 provinces traversées par le Rio Paraná. 1 milliard de pesos, environ 9 millions d'euros, ont été débloqués pour faire face aux conséquences de la baisse du fleuve et entre autres financer ces nouvelles pompes. La population, quant à elle, est appelée à faire attention à sa consommation d'eau.
Lo que pedimos nosotros es un uso solidario y responsable, denominamos, es decir...
Ce que nous demandons, c'est une consommation solidaire et responsable, c'est-à-dire ne pas changer les habitudes sur les usages essentiels, mais essayer d'éviter de gaspiller la moindre goutte d'eau. Concrètement, ça veut dire ne pas faire la vaisselle en laissant le robinet ouvert, mais en remplissant un évier. Autre exemple, ne pas prendre de douche de 15 minutes. 3 ou 5 minutes sous la douche suffisent pour se laver. Il faut éviter la partie plaisir de la douche.
La parte de placer, digamos, del baño.
Des petits gestes qui ont permis jusqu'à maintenant d'éviter que l'eau ne vienne à manquer. Mais l'été austral arrive, et face à ce scénario inédit, Guillermo Lanfranco a un peu l'impression de naviguer à vue dans des eaux peu profondes.
Pour le moment, on peut maintenir notre service. Le défi, ce sera de pouvoir le faire cet été, quand la demande sera plus importante. On a connu des crues de grande ampleur, mais jamais une baisse aussi prononcée. Nous ne sommes pas préparés pour une telle baisse. De fait, toutes les alertes sont pour les crues. Il n'y a pas d'alerte pour la baisse. Ça n'a jamais été pensé. Il va falloir le faire.
Une situation jamais pensée, jamais prévue, qui affecte l'approvisionnement en eau potable donc, mais également des secteurs économiques comme la pêche ou la marine marchande. Alors il faut savoir qu'on surnomme parfois Rosario la Chicago argentine. Parce qu'il y avait une mafia très puissante ici dans les années 30. Mais surtout parce que Rosario, c'est un port agro-industriel. 82 millions de tonnes de céréales qui transitent chaque année. Ici, on dit même que c'est le nœud d'exportation agricole le plus grand au monde. Et comme à Chicago, il y a une bourse, la bourse de commerce de Rosario. On est juste devant. C'est un grand bâtiment, très élégant, avec une coupole et des colonnes qui encadrent la porte. Et on va rentrer.
Voilà. Vine a ver el señor Alfredo Cese.
On a rendez-vous avec Alfredo Cese, c'est le secrétaire de la commission des transports de la Bourse de commerce de Rosario.
Bueno, vamos entonces a pasar a la oficina. En la Bolsa de Comercio de Rosario se comercializa.
La majorité des exportations de céréales argentines sont commercialisées à la Bourse de commerce de Rosario. Cette diminution du débit du fleuve génère des coûts logistiques supplémentaires pour toute la chaîne agro-industrielle d'environ 315 millions de dollars, car les bateaux ne peuvent pas sortir du port aussi chargés que d'habitude. Et n'oublions pas qu'au final, ce sont les producteurs qui finissent par payer ces coûts.
Quienes terminan pagando el costo son los productores.
Quelle proportion de charge en moins les bateaux peuvent-ils porter?
Un barco del tipo Panamax que
un bateau de type Panamax qui ici devrait normalement pouvoir charger entre 40 et 45 000 tonnes ne peut plus charger en ce moment qu'entre 30 et 32 000 tonnes. Ça signifie qu'il quitte le port avec 15% de charge en moins que d'habitude et qu'il va falloir plus de bateaux pour transporter le même volume d'exportation.
L'Institut national de l'eau, l'INA, a des prévisions très pessimistes sur les prochains mois.
le niveau du fleuve devrait continuer à baisser, même atteindre des records historiques. Est-ce que ça vous inquiète ?
C'est une situation inquiétante, peu encourageante, disons. L'an passé, la situation était très similaire. Cette année semble être encore pire. Mais en réalité, nous subissons cette baisse depuis l'année dernière. Il y a aussi des pertes pour ceux qui vivent de la pêche, artisanale et industrielle. Donc c'est une préoccupation pour toute l'économie argentine. Le gouvernement devrait allouer des fonds pour essayer de compenser en partie ces pertes. Mais de ce que nous savons, elles pourraient être très importantes, sans mentionner les conséquences qu'il pourrait y avoir sur l'environnement.
Le gouvernement argentin a en effet prévu une enveloppe d'un peu moins de 9 millions d'euros pour atténuer les conséquences économiques et sociales de la baisse du fleuve. Mais le grand oublié de ce plan, qu'Alfredo Cessé mentionne à la fin de notre rendez-vous, c'est l'environnement, pourtant particulièrement affecté par cet étiage. Pour voir les effets concrets de la baisse du fleuve sur l'écosystème, il faut se rendre dans les zones humides que forme le delta du Paraná. Nous y allons avec Rogelina Iba, la journaliste que nous avons rencontrée à notre arrivée à Rosario, et des membres de l'organisation El Paraná no se toca, que l'on pourrait traduire par « Pas touche au Paraná ». Cette ONG environnementale milite depuis des années pour une loi protégeant ces zones humides. Nous embarquons sur le bateau de Federico, un rosarino qui connaît bien la zone car il y emmène régulièrement des touristes pour des balades dans les îles.
Le rio fait environ 5000 km de long et son bassin, qui constitue la zone humide dont nous allons visiter une infime portion, car ce sont des étendues énormes d'îles, de lacs, de ruisseaux et d'étangs, a une superficie quasiment aussi grande que l'Argentine.
Une étendue immense dont la partie argentine s'appelle la Mésopotamie et dont l'apparence a radicalement changé à cause de la baisse du fleuve, explique Rogelina Iba.
Là où d'habitude on rencontre de l'eau, du vert et de la végétation, et ben maintenant ça ressemble assez vraiment à un désert ou à une steppe. Non, c'est vraiment un paysage qui a changé beaucoup et du point de vue des couleurs aussi. C'est très marquant ça.
À cause du faible débit du fleuve, beaucoup des petits cours d'eau qui quadrillent normalement les zones humides sont à sec, avec des conséquences néfastes sur la faune aquatique, nous explique Vanessa Pacotti, biologiste et membre de l'ONG El Paraná no se toca.
La majorité des poissons qui vivent ici vont se reproduire dans les étangs de la zone où ils peuvent manger et grandir. Et quand ils sont grands et qu'ils peuvent affronter le courant du fleuve, ils sortent. Donc quand le niveau du fleuve est aussi bas et qu'il n'est plus connecté à ces étangs, ça affecte énormément la reproduction des poissons.
Avec les poissons, c'est toute la chaîne alimentaire qui est affectée, et notamment les oiseaux migrateurs qui ne trouvent plus de quoi se nourrir. Mais en réalité, c'est l'habitat de toute la faune locale qui est en danger. Favorisé par la sécheresse, les incendies se multiplient dans la région depuis 2 ans. Au moins 400 000 hectares partis en fumée selon les chiffres officiels, plus du double selon le décompte des militants environnementaux. Alors que nous sommes sur le fleuve, l'horizon est toujours voilé d'une pellicule grisâtre, conséquence des feux des jours précédents.
Il y a quelques jours, peu de jours, 3-4 jours en arrière, on a eu à nouveau ce phénomène. Quand les îles brûlent, dépendant selon la direction du vent, on respire de la fumée, on respire cette végétation brûlée.
Et ça peut être nocif pour la santé.
C'est très nocif pour la santé. La dernière information de l'Université de Rosario est que le week-end passé, on a respiré de l'air 4 fois plus contaminé que ce qui est toléré par l'Organisation mondiale de la santé, par exemple. Et ben on a ce problème en plus.
Les flammes se propagent d'autant plus rapidement que la sécheresse a fait disparaître les petits ruisseaux qui servaient de coupe-feu naturel. Dans leur grande majorité, ces incendies sont provoqués par l'homme afin de nettoyer le terrain pour y installer du bétail. Une pratique traditionnelle devenue beaucoup plus fréquente ces dernières années à cause de ce que les défenseurs de l'environnement argentin appellent l'avancée de la frontière agro-industrielle. Alors que de plus en plus de terres sont consacrées à la culture intensive de soja dans le centre du pays, les éleveurs de bétail doivent trouver de nouveaux endroits pour leurs vaches et terminent bien souvent par s'installer dans le bassin du Paraná.
Maintenant, on est sur le Paraná Viejo, c'est ça ?
Oui.
Qui est un bras du fleuve qui passe à côté du Paraná.
Oui, ce qu'on voit, c'est beaucoup de terre, beaucoup de boue, beaucoup de sable, là où on trouvait habituellement de l'eau. On voit des petits bateaux qui sont sur la terre, carrément. Et on voit du bétail.
Ouais, on voit quelques vaches qui profitent du coup pour pouvoir venir se balader là où elles n'ont pas l'habitude de pouvoir venir.
Absolument. Bon, les vaches ne sont clairement pas de la faune autochtone de cette région. Hein. Elles ont toutes été introduites et elles sont très dangereuses pour l'écosystème. Parce que par exemple, elles mangent toute la végétation que tu vas trouver. Et comme on disait tout à l'heure, la végétation est déjà assez stressée par deux saisons d'incendie et des manques d'eau.
Ah voilà, là on est en train de s'arrêter tout simplement parce que si on continue un peu plus en bateau, on va se retrouver bloqué parce que le fleuve s'arrête tout simplement. Donc on va descendre.
Alors normalement là on est au point où on devrait être sous en tout cas un mètre et demi d'eau. On est en train de marcher sur le fond du fleuve, du petit fleuve. Et le paysage est absolument différent, radicalement différent.
Et alors, il y a des gens qui profitent de la baisse du fleuve pour sortir les détecteurs de métaux, c'est ça?
Oui, c'est ça. On en voit deux ou trois au moins, hein, en train de chercher soit des boucles d'oreilles, j'imagine, des petits bijoux, des monnaies, des pièces de monnaie, des pièces de métal. J'imagine qu'ils ne vont pas trouver un grand trésor, mais bon, ils s'essayent.
Et c'est pas caro. Cet oiseau qui est là a des pattes avec des doigts très longs pour pouvoir marcher sur la végétation flottante. Mais maintenant, il n'y a plus de végétation flottante. Le petit rouge là et ceux-là ici sont des bécassos. Ce sont des oiseaux migrateurs qui voyagent depuis le Canada jusqu'à la Terre de Feu.
La cause directe de cette baisse historique du Rio Paraná est à chercher sur les hauts plateaux brésiliens, là où le fleuve prend sa source. Cette région connaît depuis presque 3 ans un manque de précipitations exceptionnel. Mais selon la biologiste Vanessa Pacotti, cette sécheresse est elle-même intimement liée à la déforestation. Au Brésil bien sûr, mais aussi en Argentine et au Paraguay, où 20 millions d'hectares de forêts ont disparu depuis 20 ans.
Les arbres fonctionnent comme des réservoirs qui maintiennent l'humidité et l'eau disponible dans les régions où il y a des forêts ou des jungles. Donc quand on déforeste pour faire des champs de culture ou des prés pour le bétail, ce que l'on fait, c'est sortir l'eau qui existe de ce système. Et toute cette eau n'est plus disponible dans cette région. Tout ce cycle hydrologique est altéré parce que les arbres et les masses végétales sont essentielles pour maintenir l'eau douce sur la planète.
Le rôle du changement climatique dans cet étiage historique du fleuve fait encore l'objet de réserves chez de nombreux scientifiques qui reste prudent sur un éventuel lien direct de cause à effet. Comme tous les fleuves, le Paraná traverse périodiquement des cycles de crues et de décrues plus ou moins importants. Tous cependant s'accordent sur un point. Avec la crise climatique, les phénomènes météorologiques se font de plus en plus extrêmes et de plus en plus fréquents. Face à ces périodes de pluie plus intenses, de sécheresse plus aiguë, la capacité de résilience de l'écosystème est de plus en plus fragilisée. Dans le cas du Rio Paraná, certains experts doutent que le fleuve retrouvera un jour son exubérance passée.
En Argentine, la baisse historique du Rio Paraná, un grand reportage de Théo Conscience, réalisation Laurie Plisson.
Si yo digo verde, a que usted no piense. En el camalote, y si digo agua, usted no imagina el Paraná. Diciembre lo arranca, desata su nudo con la madre selva, y con él viene el agua, el viento del norte y la yarará, y a su incertidumbre lenta. Lagarto, raíces negras, se le pega el hambre.